notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette journée bénie que tu nous as donnée. Permets que nous puissions nous tourner maintenant vers toi d'une manière particulière, avec des frères, avec des sœurs, avec toi présent, avec le Saint-Esprit. Nous voulons te mettre en contribution, Seigneur, pour que nous puissions capter ta pensée dans ce texte. Ce personnage qui y ont vécu des milliers d'années, mais nous aimerions tirer des leçons avec la façon dont ils ont vécu avec toi, Seigneur. Et notre Dieu, de nous prendre en charge pendant cette réunion, utilise ton serviteur pour nous guider, nous conduire dans cette étude. Nous qui allons être ensemble pour méditer, mais des milliers de gens à travers le monde vont suivre le même message. Que ta grâce abonde et sur nous et sur eux, Père. Prends-nous en charge du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, merci beaucoup, Papa Célé. Marie-Christine, je vous demanderai plutôt de faire la prière finale. Et comme il y a déjà quelques frères et sœurs qui nous ont rejoints, sœur Suzanne, est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Sœur Suzanne?
Oui, pasteur José.
Oui,
Bonsoir.
bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture du texte de ce
Oui.
soir dans Genèse 44, verset 18 jusqu'à la fin du chapitre?
Oui, pasteur. Nous allons lire dans 8 secondes. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, Avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, Retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme. À moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans les séjours des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Amen.
Amen. Merci, ma sœur Suzanne, pour la lecture. Frères et sœurs, nous sommes devant ce texte qui traduit pour nous aujourd'hui une très émouvante plaidoirie et que nous pouvons étendre même dans le sens d'intercession. Un bel exemple d'intercession, mais aussi un bel exemple d'engagement, de respect des paroles données, un bel exemple de prière, un bel exemple de renoncement, un bel exemple d'abnégation. Nous avons, au fait, toutes les caractéristiques, en tout cas, qui illustrent bien une vie réglée, une vie qui a été motivée, en tout cas, par l'amour du prochain. Et les deux questions qui nous sont posées ce soir, l'exemple à suivre ou à ne pas suivre, et la vérité que Dieu nous révèle au travers de ce texte, ces deux questions nous aideront en tout cas à voir les différents aspects de la vie des prières, mais aussi les différents aspects de la vie réglée dans la communauté. Le théâtre dans lequel se situe cette plaidoirie, au fait, il s'agit d'un problème de famille. Donc, on peut voir que au sein de la famille, il peut même, c'est même la place, les lieux où il y a beaucoup plus de blessures encore. Et ce soir, le Seigneur nous ramène un peu à nous-mêmes, nous ramène à notre famille biologique, il nous ramène à notre famille chrétienne, au sein de laquelle peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'on s'est fait mal, peut-être que on a mal agi, on a blessé les uns et les autres, et le Seigneur a agi entre-temps dans nos cœurs. Comment est-ce que nous pouvons régler ce que nous n'avons pas pu faire, peu importe le temps qui s'est écoulé, mais nous avons là, avec Judas, un exemple d'intercession, de prière. On peut même aller jusque plus loin, parce qu'à la fin, il va se présenter lui-même comme étant le substitut. Il voudrait se substituer à son frère. Il voudrait prendre les torts de son frère parce qu'ils ne savent pas que c'est quelque chose qui a été, c'est un setup, quelque chose qui a été mis en scène. Lui ne sait pas, ses frères ne savent pas, mais lui-même, Judas, il est prêt à prendre sur lui les torts de son jeune frère, ce qui démontre aux yeux de Joseph que c'est vraiment un homme repenti. Un homme qui, aujourd'hui, 22 ans ou peut-être plus tard, il n'est plus l'homme qui avait décidé de vendre Joseph, en le sauvant évidemment de la mort aussi, mais en l'éloignant beaucoup plus encore de son père. Aujourd'hui, c'est un homme qui est prêt à donner sa vie à la place de celle de son frère. Voilà le cadre dans lequel nous nous situons ce soir. Il y a certainement beaucoup à dire en termes d'intégrité, en termes d'intercession, parce que le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses frères, ses sœurs, ses amis. Donc on a aussi l'image de Jésus-Christ ici qui a pris notre place. Un peu comme Judas veut aussi le faire pour son frère. Voilà les décors, frères et sœurs, dans lesquels nous pouvons échanger encore ensemble ce soir pour nous édifier, nous entraider les uns les autres dans notre commune foi. C'est sûr que, vu le nombre de personnes qu'il y a ce soir, et je vois rapidement, ce sont des habitués, alors nous pouvons prendre la parole. On a toujours 2 minutes pour pouvoir nous exprimer, échanger l'essentiel de ce que nous avons à cœur, et si nous voulons revenir encore, nous pourrons redemander la parole qui nous sera donnée dans la mesure du possible. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons partager la parole du Seigneur ensemble. Oui, Papa Célé Wama Christine, vous avez la parole.
Merci, pasteur José de Canada, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 18. Ici, c'est pour répondre à la question, quel est l'exemple à suivre ici ou à ne pas suivre? Ici, c'est l'exemple de Judas qui s'avance pour prendre la parole et comment il s'avance vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Il utilise de bonnes paroles pour attirer le cœur de Pharaon, de Joseph, bien sûr, qui ne connaît pas encore que c'est Joseph, mais pour toucher son cœur. Tout ça, c'est pourquoi l'objectif, la motivation, c'est que son frère Benjamin, qui est accusé de vol, soit acquitté. Ça, c'est un très bon exemple à suivre.
Oui, c'est vrai, c'est un bel exemple à suivre. C'est quand même curieux de voir que tous les frères sont ensemble. Nous l'avons répété dans les échanges précédents. Judas, c'est le quatrième fils en termes d'aînesse, en tout cas. Siméon était là, il venait juste d'être libéré, mais il y a aussi Lévi, il y a Ruben, le fils aîné. On voit le courage, on voit aussi les talents, la capacité de parler. Il est vrai aussi que ce n'est pas parce que Ruben est aîné qu'il sait bien parler. Mais celui-ci, au fait, il est motivé en tout cas par le désir de sauver son frère et c'est ce qui le pousse à s'avancer pour pouvoir le faire. Pasteur José, vous avez la parole.
Oui, toujours, merci beaucoup, frère. Toujours à propos de ce Judas, nous savons, parce que ceux qui ont vécu l'histoire ici suivent comme les choses se passent, mais nous avons la chance de voir ce qui est arrivé plus tard à Judas. Parce que c'est Judas qui à qui la royauté est confiée. Parce que notre Seigneur Jésus, en tant qu'humain, descendra de David, David qui descend de cette tribu. Donc cet homme, oui, il mérite la place qu'il occupe dans la société juive, dans le groupe des 12. Il mérite sa place parce que sa façon de mener la question, c'est avec beaucoup de clarté, beaucoup d'humilité, de tact pour convaincre son interlocuteur. Et vraiment, il mérite cela et gloire au Seigneur qui a donné à cet homme ses talents. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Frère Thomas, vous avez la parole.
Oui, bien-aimé, je poursuis la pensée sur Judas, donc son caractère, d'après ce que le pasteur José des États-Unis venait de dire. Donc Judas, il fait un travail d'intercession ici. D'abord, il a intercédé auprès de son père, là où son grand frère a dit, tu me donnes l'enfant, s'il ne retourne pas, tu peux tuer mes deux enfants. Il ne savait pas négocier. Mais Judas a parlé de manière que le sauveur, donc Benjamin, le voyage puisse avoir lieu pour qu'il puisse être accepté chez Joseph. Maintenant qu'il faut laisser l'autre enfant ici, il négocie, il est comme intermédiaire, il est en train de négocier pour toucher le cœur de l'autre. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. C'est pourquoi il est Judas. Et Jésus est le lion de la tribu de Judas, justement, parce que il est donc, il va être l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison de Judas, d'où va venir même Marie, Et Jésus-Christ est le fils de Dieu, mais c'est le fils du roi David qui vient de la maison de Judas aussi. Donc, Judas, je le vois ici comme un intermédiaire, puisque 1 Timothée 2, 4, 5 dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Donc, Judas ici joue un rôle d'intermédiaire. J'admire ici les intercesseurs, ceux qui chaque mardi, vendredi, la nuit, samedi, sont en train de prier, pas seulement pour eux-mêmes, mais prier pour l'Église, prier pour les fumettes, prier, veiller la nuit pour que les choses marchent avec nous. Nous devons de la déférence, nous devons de l'admiration et de l'encouragement aux fidèles intercesseurs qui sont toujours là à prier pour aller entre Dieu et nous les hommes pour obtenir de son trône la faveur de Dieu. Merci.
D'accord, frère. Vraiment, il y a de l'admiration aux intercesseurs à travers Judas, ce qu'il fait. Il y a vraiment de quoi bénir le Seigneur pour ses frères et sœurs qui se donnent, qui s'oublient et qui vont devant le Seigneur avec les autres pour les besoins des autres. Vraiment, chapeau bas et gloire au Seigneur pour ce qu'il fait à travers les intercesseurs. Je vois encore une fois à travers Judas, nous nous rappelons qu'au chapitre 37, c'est lui qui avait proposé qu'on vende Joseph. C'est lui qui y avait, en fait, il avait ramené ses frères dans cette direction de la vente. Alors que tous, ils étaient aigris, ils avaient de la haine contre Joseph. Lui s'était levé, en fait, pour dire, ayant vu les caravaniers ismaélites, il va leur dire, qu'est-ce que nous gagnons à tuer notre frère? Il va leur dire même, il est notre sang, c'est notre propre chair. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire du mal en le tuant? Alors, il va proposer, plutôt au lieu de le tuer, il faut le vendre. Ce qui n'est pas une bonne chose du tout, mais c'est moins pire que de le tuer. Ici, ce que je retiens, frères et sœurs, c'est que l'interpellation que j'ai à partir du verset 18, c'est que lorsque le Seigneur nous a dotés d'un talent, ce talent, nous pouvons l'utiliser, nous pouvons entraîner d'autres dans le mal, tout comme aussi le talent peut être très bien utilisé pour entraîner les autres vers le bien. Cet homme, Judas, démontre qu'il était c'était un vrai leader. Il a su amener les autres, les détourner de la décision qui avait été prise avant pour les amener à vendre Joseph. Et ici encore, le même talent qu'il a, maintenant, il est mis à la disposition du bien. Et je me dis, qu'est-ce que je possède de la part du Seigneur et que j'utilise pour sa gloire? Comment je peux utiliser ce que Dieu a rendu disponible à moi pour pouvoir m'en servir à sa propre gloire et pour le bien des autres? Je vais donner la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur José. Moi, je suis au verset 20. Je suis interpellé par les langages utilisés ici. Il y a des langages qui m'interpellent et pour lesquels je dois demander la grâce du Seigneur pour que je puisse comprendre le fond du problème. Et chaque fois que quelqu'un me parle, que je ne m'arrête pas seulement aux mots prononcés, mais que j'entre dans la profondeur même du message. Cet enfant avait un frère qui est mort. Judas, en parlant de cela, il sait bien qu'ils n'ont pas tué, ils n'ont pas vu là, Joseph mourir. Ils l'ont vendu. Mais lorsqu'il parle des morts ici, quelqu'un qui est porté disparu, où on ne sait même plus là où il est, et lorsqu'il ne participe pas à la vie courante de la famille, c'est comme quelqu'un qui est mort. Donc, il n'est plus là. Donc, sa présence active n'y est plus, on le considère comme mort. Parce que je pouvais dire, mais pourquoi il continue à mentir du moment qu'il pouvait dire, nous l'avons vendu, nous ne savons pas là où il est. Mais la mort dont il parle ici, c'est quelqu'un qui est séparé de la famille, de l'activité active de la famille. Et de deux, il est resté seul et son père l'aime. C'est comme le papa dont il parle, il n'est pas son père aussi. Mais ici, il s'est mis un peu à l'écart pour voir combien Jacob déverse son amour envers Benjamin. C'est sans rancune quand il dit maintenant que son père l'aime. Parce qu'il a observé, il s'est rendu réellement compte que Jacob aime Benjamin. Et ils acceptent ça avec joie. Et dans la suite, nous verrons comment ils sont devenus solidaires envers cet enfant-là, cet enfant que leur père chérit plus. Auparavant, ils pouvaient se dire pourquoi notre père. Non, il s'est retiré, il a vu, ils ont accepté et ça fait leur joie. Donc, ce qui, en résumé, je dois demander plus de discernement quand je reçois le message, que je puisse être à l'écoute du Saint-Esprit. Quel est le fond du message qu'on me transmet? Amen.
Oui, frère. Je vais donner la parole au pasteur, à Papa Célé ou Maman Christine.
Oui, merci pour la parole, Papa José. Juste au début de notre texte, au verset 18, nous voyons Judas qui s'approche, et il s'approche pour parler à Joseph. Il ne sait pas encore que c'est leur frère. Mais l'attitude qui me frappe et que je trouve comme un exemple à suivre, malgré que lui-même, Joseph, sait ce qu'il est en train de rechercher, c'est un homme extrêmement patient, un homme qui sait écouter, et un homme qui sait maîtriser ses sentiments. Là, ce sont vraiment les qualités qu'il faut rechercher dans un responsable. Il faut écouter, il faut savoir se maîtriser, il faut éviter des explosions qui font qu'on ne sait pas trouver vraiment une solution. Le calme de Joseph, c'est vraiment l'exemple à suivre d'un leader. Amen.
Amen. Oui, merci beaucoup, Papa Célé. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, frère. Bien-aimé, toujours à propos de Judas, au verset 20, là où Papa Gaston a parlé, je reviens là aussi pour souligner un aspect aussi important. Quand il dit « Notre Père l'aime particulièrement et c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée, l'autre fils est mort. » Ici, Judas se met à la place de son père. Il se met à la place de son père. Et cette pensée se voit tout le long du passage. Donc, Judas souffre à la place de son père. Ou bien, il essaye de souffrir à la place de son père. Et là, c'est bien dans la dans nos relations humaines. Il faudrait que chacun de nous se mette à la place d'eux, que le mari se mette à la place de son épouse, que l'épouse fasse de même pour son mari, qu'on fasse de même pour ses enfants, pour ses parents, et ainsi de suite. Alors, si nous nous mettons à la place de l'autre, il est difficile de faire du mal à cet autre-là. On fera, on essaiera toujours à faire du bien. Pardon?
J'ai les bijoux pareils.
Que l'autre se réjouisse.
Ah.
Mais ce qui nous arrive malheureusement est d'oublier l'autre. Ah, c'est son affaire. Qu'est-ce que moi je peux faire? À sa place, c'est quoi? Et là, nous continuons à nous mordre, nous continuons à nous blesser par des paroles, par des gestes, parce que nous ne voulons pas nous mettre à la place de l'autre. Mais nous sommes appelés à le faire en tant que chrétiens. Merci.
Merci, pasteur. C'est même une des caractéristiques premières d'un intercesseur, c'est de savoir se mettre à la place de celui pour qui on prie, celui pour qui on intercède. Et c'est ce que Judas est en train de nous apprendre ici. Je vais donner la parole au frère Albert.
Ah, merci, mes bien-aimés. Moi, je suis au verset 18. Mes bien-aimés, je vois un peu plus loin ici la promesse de Dieu et comment le plan de Dieu fonctionne. Quand Dieu a dit quelque chose, il doit l'accomplir. Quand nous rentrons au chapitre 43, verset 9, nous allons voir que c'est seulement Judas, que quand Judas parle avec Jacob, et la manière dont il a parlé à son père, les responsabilités qu'il a prises par rapport à la vie de Benjamin, c'est cela qui va convaincre Jacob de laisser Benjamin d'aller avec eux. Et nous voyons ici, moi, l'Esprit me montre, Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite sur la famille de Judas, qui va devenir cette famille, qui va prendre le leadership sur les 12 tribus, et à travers cette famille, Jésus-Christ va naître. Nous voyons le leadership qui quitte les fils aînés, Ruben, qui passe directement à Judas, et Judas prend les responsabilités, et quand même il va arriver au verset 18 ici, quand il approche Jacob. Bien que le mensonge est répété, mais il a rapporté calmement, avec douceur, tel que les effets se sont passés, et jusqu'au point où son père a laissé leur frère aller avec eux, et les responsabilités qu'il a prises. Je me dis, notre Dieu, il est mystérieux. Parce que sur les 10 qu'ils étaient, en écartant Joseph et Benjamin, personne n'a pris cette responsabilité sur la vie de Benjamin et personne ne pouvait être écouté à leur papa. Ici, on voit la main de Dieu, on voit les pouvoirs de Judas, la manière de travailler et de quel calme avec lequel il parle et il est écouté et la suite, nous connaissons ce qui est arrivé. Simplement, je me dis, notre Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit pour tout un chacun, l'onction qu'il a mise sur tout un chacun, il l'a accompli de la manière fidèle. Et ici, Judas devient le chef qui parle au nom de toute la famille, alors qu'il n'est pas le fils aîné. Mais c'est là l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça me demande, moi personnellement, d'être attentif à la parole de Dieu. Merci, que Dieu soit loué.
Merci, frère. Papa Thomas, vous avez la parole.
Oui, je regarde le discours de Judas et j'ai pitié de Joseph. parce que il a fait tout le théâtre nécessaire pour que ses frères se disent quand même, mais peut-être ça c'est Joseph. Mais il n'y a rien. Il continue à dire que l'autre là est mort. Mais ils l'ont vendu chez des trafiquants qui se dirigeaient vers l'Égypte. Et ils sont en Égypte. C'est quand même un garçon qu'ils ont vu à 17 ans. Et même s'il est devenu un peu plus grand, il a grossi un peu, tout ça. Mais quand même, c'est Joseph quand même, plus quelques années. Donc, il faut un aveuglement assez profond pour ne pas reconnaître son frère 22 ans après. Et c'est bizarre que Joseph, il a demandé sur leur frère-là, il demande que le petit la vienne, et il parle de leur père, il demande leur père, et ils ont mangé ensemble, il a donné une plus grande partie à Benjamin. C'était quand même le temps de se... Et puis quand ils repartent, leur argent est toujours avec eux, la première partie et la deuxième fois encore. Quelque part, ils devaient être capables de se dire, est-ce que nous ne sommes pas en face de Joseph? Mm-hmm. Et pour qu'il puisse se repentir. Mais tout ça n'arrive pas. Donc je conclus que c'est le Saint-Esprit seulement qui peut convaincre quelqu'un de la justice, du jugement et du péché, que nous ne pouvons pas, parce que Joseph a bien joué, très bien joué, mais il n'y a aucune idée chez ses frères de pouvoir se dire, mais, et si c'était Joseph qui est devenu cette personne devant qui nous sommes? Personne. Merci.
Merci, frère. Tu te situes dans les pas de ce qu'il y a été aussi dit hier, effectivement. Il y a eu tellement des indices qui auraient pu leur mettre la puce à l'oreille à un moment ou un autre. Et c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer parce que nous sommes aveugles ou aveuglés par bien des choses, notamment si nous traînons avec nous un boulet aussi lourd qui est la culpabilité, c'est pas toujours évident de pouvoir voir ce qui est devant nous. Parce que tout est vu à la lumière de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons fait. Ça nous tourmente jour et nuit. Et la seule manière de pouvoir voir clair, c'est de retourner à Dieu et de lui confesser notre péché et que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. En ce moment-là, nous pouvons alors voir clair et passer à autre chose. Merci beaucoup, frère. Je redonne la parole à Maman Christine.
Oui, merci, pasteur José du Canada, pour la parole. Bien-aimé, si je peux ajouter un autre aspect sur ce que Papa Thomas venait de dire. Moi, j'ai pensé aussi que ce qu'ils faisaient, qu'ils ne pouvaient même pas se rappeler, parce que dans leur tête, l'objectif était c'est de tuer les visionnaires. On va voir comment les rêves vont se réaliser. Donc, quand vous avez l'intention de tuer quelqu'un, même s'il y a autre chose, ce sont des intentions qu'on a là qui restent permanent dans le cœur. Là, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que je suis touchée vraiment quand vous regardez du verset 18 jusqu'au verset 29. Et Judas utilise nous. On sent que le chagrin tellement qui a animé papa a quand même joué dans le cœur de ces enfants qui a maintenant l'unité dans leurs propos. C'est seulement à partir de verset 30 qu'il va prendre des responsabilités à parler à son propre nom. Mais on sait sentir l'unité dans la famille, l'amour qui est revenu. Parce que ici, sinon, tel que nous le connaissions avant, ils allaient aussi réagir de l'amour que de papa donnait plus à Benjamin, comme a dit notre frère. Et Gaston. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Je vous assure, frères et sœurs, je suis sûr que vous êtes en train de vivre ou de ressentir les mêmes choses que moi. Il y a tellement à apprendre dans ces courts textes. Il y a beaucoup à apprendre des enfants de Jacob. Ils sont partis des enfants méchants, mauvais, qui démontraient que la famille était totalement désunie, une famille dispersée, même s'ils étaient physiquement ensemble, mais ce n'était pas vraiment une famille solidaire, unie. Aujourd'hui, l'image que nous avons ici nous donne plutôt quelque chose d'autre, ce qui montre que Dieu a continué de faire une œuvre profonde dans la vie de ses enfants. Ils demeurent encore des êtres limités avec leurs défauts, mais on voit qu'il y a un travail de fond qui a été, qui est en train de se faire et qui se traduit aujourd'hui par cette façon de parler qui démontre une unité. Et c'est très bien vu, évidemment, que jusqu'au verset 20, 29, il parle au nom de la famille avant, évidemment, de commencer à parler en disant « je ». Et par rapport à cela, frères et sœurs, les Écritures disent que Dieu agrée l'homme qui ne se rétracte pas dans ses décisions. Et même si la décision prise lui devient non bénéfique, l'homme qui ne se rétracte pas va continuer résolument de tenir l'engagement, de tenir la parole. Dans une des versions que j'ai utilisées ce matin, à la fin du verset 18, il est dit que tu es aussi puissant que Pharaon. S'approcher de Joseph, pour nous, c'est très facile de comprendre le texte parce que nous en avons un horizon très élargi du début à la fin. Mais pour un homme ordinaire comme Judas, qui vient, on peut dire, à la cour royale et s'approcher de Joseph, ça prend vraiment du courage et s'approcher de lui, d'une personne aussi importante, la deuxième personnalité d'un pays le plus puissant au monde à l'époque, ça veut dire que il faut vraiment être courageux, mais aussi il faut être déterminé pour pouvoir exposer sa propre vie. Je suis interpellé par cette aspect de vie de Judas, parce que c'est un homme qui ne s'est pas rétracté dans ses décisions lorsque la situation lui devenait contraire. Je vais redonner la parole à Papa Thomas.
Oui, au verset 31, Judas répète les paroles que son père avait dit que si cet enfant ne revient pas, vous me le prenez, vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour de mort avec chagrin, avec douleur. Et c'est ça que leur père avait dit, et il répète ça donc au gouverneur. Alors moi, je me suis demandé, quand nous devons partir de la terre, est-ce que c'est avec chagrin ou avec joie que nous quitterons la terre? On peut quitter la terre rassasié de jour et on se dit, je pars au ciel, je suis content, comme Paul a dit, sans regret et sans crainte, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai couru, donc j'ai fini la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie qui est réservée à ceux qui craignent Dieu va m'être donnée, pas seulement à moi, mais à ceux qui aussi auront attendu cette arrivée du Seigneur. Comment je vis et comment les gens vont trouver mon départ? Est-ce que ce serait avec joie que je vais atteindre la couronne de vie, ou bien que c'est avec chagrin et douleur que je laisse autour de moi, ou bien que moi-même je me cause, parce que c'est quand même noble que Jacob désirait être enterré, mais sans chagrin, mais que ce soit une célébration. Mais comment je vis détermine comment j'entrerai dans le royaume des cieux. Que ce soit à l'enlèvement, il faut qu'il y ait une gloire. Mais pour cela, il faut, comme Paul, avoir gardé la foi, avoir combattu le bon combat et avoir réellement couru comme cela se devait pour accomplir le vœu pour lequel le Seigneur m'aura envoyé ici sur terre. Merci.
Merci, frère. Cet aspect est particulièrement important, bien-aimé, dans la mesure où c'est pas seulement dans la mort ou ce jour-là qu'on voudrait partir joyeux ou partir avec douleur. C'est aussi même le jour après jour, pendant que nous tendons vers ce moment de départ. Nous le verrons peut-être plus tard, lorsque Jacob va arriver en Égypte. Pharaon va lui poser la question sur son âge, et il va répondre d'une manière aussi politiquement, mais il va démontrer que, au fait, mes jours, moi, le nombre de jours de ma vie n'ont pas été aussi nombreux que ceux de mes pères, en voulant dire aussi que je n'ai pas été aussi heureux comme eux l'ont été. Donc, c'est vraiment bien que maintenant, alors que nous tendons vers ce moment de grand départ, que nous vivions dans la foi, et la foi exige que nous nous approprions des bénéfices, des bienfaits de ce que Christ a fait pour nous, parce qu'il s'est substitué pour nous. Paul dit aux Romains, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Vivre par la foi, c'est saisir cette le pardon qui se trouve en Christ et continuer la marche avec la certitude qu'on est justifié, qu'on est accepté de Dieu. Quand le moment du départ arrivera, et bien nous serons comme Paul, un peu exactement comme notre frère vient de le dire, nous dirons nous aussi, nous avons gardé la foi, nous avons combattu le bon combat, et nous avons la certitude que la couronne de justice nous sera réservée. Merci encore, frère. Je vais redonner la parole au pasteur Célé.
Oui, merci encore pour la parole, papa José. Le verset 31 et 32 m'enseigne vraiment beaucoup, dans le sens que le jeune homme, j'ai dit jeune homme, l'enfant de Jacob, mais il est déjà un papa avec beaucoup d'enfants.
Mm-hmm.
Judas est en train de se préoccuper beaucoup de son père, en disant, si vraiment nous descendons sans lui, c'est nous l'avons tué. Donc, je me dis, chaque fois que nous avons un enfant d'autrui, nous avons fait du mal à un enfant d'autrui, c'est de la même manière que les parents ressentent les douleurs.
Mmh.
Ensuite, nous sommes en train de voir ici un homme complètement transformé. Judas qui a permis la vente de Joseph, c'est pas le même Judas.
Mmh.
Au cours des années, il y a eu une grande transformation dans cet homme. Et la leçon que je tire, nous avons déjà vu peut-être un enfant de Dieu, nous avons vu ses faiblesses, nous avons vu ses exploits, mais nous ne savons pas comment cet homme a cheminé avec le Seigneur. Peut-être que nous sommes en train de le regarder avec les yeux il y a 10 ans, il y a 20 ans,
mm-hmm.
mais peut-être que ce n'est plus la même personne. Et ça, c'est la sagesse et la maturité qui fait que nous ne devons pas regarder les hommes aujourd'hui comme il y a 10 ans de la même manière. Mmh. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. Frère Albert, vous avez la parole.
Merci bien-aimé. Je suis encore au verset 31. Je reviens sur ce que le frère Thomas a dit par rapport aux paroles de Jacob. Mais bien-aimé, c'est douloureux d'entendre ces paroles de la part de Jacob. Mais ici, je vois aussi les conséquences de l'irresponsabilité de Jacob. Rappelons-nous que quand il envoie Joseph, Joseph n'avait que 17 ans. Je me pose simplement une question. Connaissant que dans les contrées où il vivait, il y avait des possibilités que cet enfant, allant tout seul, il pouvait être tué par des animaux féroces. Qu'est-ce qui a fait que Joseph ne puisse pas aller avec son fils pour aller rendre visite à ses enfants qui étaient en train de prêtre des animaux? Ici, on lui raconte une histoire. Et une fois de plus, il ne se demande pas, mais le premier fils est parti. Le second fils est parti et ses enfants, il a d'inquiétude, mais il ne se dit pas pourquoi je ne peux pas me lever et aller avec et voir moi-même de mes propres yeux. Je suis convaincu qu'il avait l'énergie, il avait la force, il avait toutes les facultés possibles pour faire ce travail-là, accompagner Joseph ou accompagner ses enfants. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien et il n'attendait que qu'on lui rapporte encore de mauvaises nouvelles. Heureusement que ce n'est pas ce qui était en train de s'accomplir. Mais je me dis, nous devons savoir nous assumer de nos propres turpitudes et de nos propres irresponsabilités quand certaines choses nous arrivent, parce que ce n'est pas à tout moment que le malheur nous arrive que c'est la faute de Dieu. Ici, Joseph et Jacob est en train de récolter les résultats de son irresponsabilité et de sa vie de magouille. Que le Seigneur nous aide à être responsabilité, à être conséquent quand nous sommes fautifs et de savoir tourner les yeux vers lui. Merci. Que Dieu soit loué.
Merci frère, c'est un point de vue. Si nous faisons un petit calcul en termes d'âge, au moment où Joseph est parti, c'est un homme qui devrait déjà avoir un certain âge vraiment avancé un peu. Il est parti de chez son père, chez ses parents, il avait plus de 40 ans, il a fait une vingtaine d'années chez son oncle, et puis tout ce temps-là, les enfants sont nés. Quand on voit son fils aîné, la différence d'âge entre Ruben et Joseph, c'est quelqu'un qui, peut-être au moment où Joseph a été envoyé, il était peut-être à 70-80 ans, il était pas mal avancé, et je pense que lui, comme père, de son point de vue, ne pouvait pas s'attendre que si un malheur devait venir, et ce malheur allait venir à partir de ses propres enfants. J'imagine que lui-même aussi, le réveil va être assez brutal lorsqu'il va apprendre en Égypte que c'était ses propres enfants qui avaient vendu Joseph et qui s'apprêtaient à les tuer. Un peu comme nous tous, effectivement, il y a des fois, nous n'avons pas toujours cette capacité de percevoir que le malheur, ça peut venir de plus proche. Nous pensons toujours que les choses peuvent venir de l'extérieur. C'est un point de vue. Merci de l'avoir partagé, frère. Je vais donner la dernière parole au pasteur José.
Merci beaucoup, pasteur. Je suis au dernier verset. C'est toujours Judas qui parle. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Oui, ici, comme nous disions avant, Judas se met à la place de son père et il ne veut pas voir son père mourir parce que l'enfant n'est pas rentré. Alors, encore une fois, nous avons le devoir de penser à l'autre ou aux autres au lieu de penser toujours à nous-mêmes. Merci.
Merci beaucoup, papa. Dans ce sens-là, je voudrais conclure avec le verset 33. Il précède évidemment le commentaire que le pasteur José vient de présenter. Le verset 33 est la conclusion du rapport ou de la plaidoirie que fait Judas. Alors il va conclure en disant, à la place de l'enfant, laisse-moi, accepte que je reste. Et je pense que cette attitude qui traduit l'humilité, mais aussi l'humiliation, cette attitude qui conclut ici par une sorte de confession, mais une sorte d'intercession aussi, a été si fort, si éloquent, que Joseph, dans le chapitre qui va suivre, quand nous y reviendrons dans la suite, Joseph ne pouvait plus se contenir, il va alors se dévoiler à ses frères. Judas nous a beaucoup appris ce soir, frères et sœurs. Judas a été un intercesseur digne de ce nom. Il a su se mettre à la place de son père. Il a su savoir comprendre ce que son père ressentait. Lui-même étant père, je pense qu'il pouvait se dire, et si quelque chose arrivait à mon fils, comment moi-même je vais vivre cela? Et tout cela, nous pouvons voir la main de Dieu qui fait un travail de fond au travers de ses enfants ici. Peut-être que le temps a été long, mais les résultats, nous le voyons là, c'est vraiment des hommes qui donnent l'apparence des personnes qui ont été touchées, des personnes qui sont repenties, des personnes qui ont été mises à l'épreuve et le test a été confirmé. Frères et sœurs, ma prière est que le Seigneur, notre Dieu, qu'on continue de faire par le Saint-Esprit un travail de fond en nous. L'apparence, ou même aussi notre présence dans l'Église, notre présence aux méditations, c'est déjà une bonne chose. Mais bien plus encore, moi j'ai besoin, je prie que le Seigneur continue un travail de fond, dont le résultat devrait être apparent, de manière que ce soit l'apparence ou le fond, le résultat soit celui du constat de la repentance, d'une vie transformée, d'une vie touchée, d'une vie qui est définitivement consacrée à Dieu. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Demain, nous allons reprendre la méditation avec un nouveau livre, l'Apocalypse. Nous serons dans Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8. Et nous aurons des questions 1 et 2 pour nous aider à méditer. Papa Célé, est-ce que nous avons des annonces?
Oui, merci papa. Je voudrais juste saluer les frères et sœurs qui nous suivent depuis la radio FIMES. Ils sont North Carolina, à Utah, et aussi au Canada, du côté de Québec, et puis du côté d'Alberta. Merci.
Merci beaucoup. Maman Christine, si vous pouvez prier le Seigneur pour nous.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes très reconnaissants, papa, encore, ce soir parce que chaque jour tu nous enseignes, tu veux réellement que nous nous ressemblons, nous approchons vraiment au statut qui est Jésus comme modèle de vie. Merci Seigneur pour nous rappeler aujourd'hui que tu as besoin des hommes et des femmes qui sont là prêts à intercéder pour les autres, comme nous voyons Judas hier, qui a vendu, qui était maîtrier, qui voulait la vente de son frère aujourd'hui, avec le temps, a changé, changement de cœur. Le cœur est rempli d'amour, rempli de politesse, de simplicité, de sagesse. Seigneur, nous aussi, chaque soir, nous venons sur ce plateau pour entendre ta parole ou dans nos églises respectives, ma Seigneur. Change nos cœurs, que ce cœur se transforme jour après jour et que la parole prenne place afin que nous agissons conformément à ta volonté. Intercéder, prendre la place de l'autre, supplier, plaider pour l'autre, la délivrance de l'autre, la guérison de l'autre. Oh Dieu, merci de nous enseigner cela. Seigneur, fais que nous soyons des frères et des sœurs, des vrais. Même si hier nous avions été du côté de comploter le mal, mais aujourd'hui, que nous changeons. Seigneur, toi, tu ne parles pas en vain. Réellement, tu veux opérer des changements dans nos cœurs, mais tu veux des cœurs repentants, que chacun de nous revoie ses comportements et prenne une décision. Merci, Saint-Esprit, pour ton action. Nous voyons combien, Judas ne voulait pas voir son père dans les soucis. Seigneur, quelle est mon attitude, l'attitude de tous ceux qui méditent? Est-ce que nous sommes là en train de nous réjouir du malheur des autres ou bien nous sommes là vouloir voir l'autre dans une bonne santé ou bonne vie? Seigneur, martèle que le Saint-Esprit parle, nous dérange, Seigneur, que nous changeons de comportement comme Judas. Tu as besoin des gens hier qui se comportaient n'importe comment, mais après avoir entendu ta parole, prenne une décision. Aide-nous à prendre de multiples décisions, que nous soyons, que nous pouvons, Seigneur, dans nos prières, nos intercessions, pourquoi pas intervenir même physiquement en aidant par ceci, par cela. Tu veux que l'amour répande, soit dans la motivation de toutes les choses. Et merci, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui arrange des situations impossible dans des familles. Nous voyons comment tu vas amener cette famille à se retrouver qui était déchirée, disons, je peux dire, hier dans des problèmes, des accords, mais qui l'amour va naître. Seigneur, fais naître l'amour dans nos cœurs. Fais naître l'amour, la confiance à toi, la crainte dans nos cœurs. Seigneur, ne nous laisse pas tranquille que le Saint-Esprit continue à nous parler. Nous nous préparons de la descente, du retour au bercail un jour. Mais comment nous allons retourner? C'est en préparant notre vie de chaque jour. Seigneur, aide-nous. Merci pour ton serviteur que tu as donné la charge de nous guider et nous sommes arrivés à saisir des grandes leçons qui vont rester dans notre vie. Parle, le Seigneur intervient dans sa vie, intervient dans sa famille. Enlève la honte, l'opprobre, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui parle. Tu sais pourquoi tu as donné ces paroles. Seigneur, étends ta main dans sa vie personnelle, dans sa maison, dans l'église de Dieu qui est sous sa direction, Seigneur. Fais des miracles. Tu sais, Seigneur, si tu fais quelque chose dans sa vie, comment la répercussion sera dans l'église entière. Nous pouvions voir la fois passée comment, et par ta grâce, il a pu emballer l'église à ces fumées. Seigneur, utilise ton serviteur pour que la gloire puisse revenir à toi seul dans sa vie. Seigneur, toutes les sœurs, les frères qui sont venus ce soir, tu nous as montré la bonne façon de parler, comment plaider avec politesse et intelligence. Mets à nous des paroles de sagesse, la politesse, que nous sachions s'adresser à n'importe qui, mais avec un langage, un bon langage de simplicité et l'humilité, afin que nous obtenions ce que nous voulons. Seigneur notre Dieu, bénis chaque maison. Atterris dans chaque maison, Seigneur. Enlève, Seigneur Jésus, s'il y a des conflits, fais, Seigneur, qu'il ait des réconciliations. Tu es celui qui, dans cette histoire de cette famille, c'est toi qui avais dit, et tu as provoqué tout. Tu as réuni les circonstances et temps. Y a-t-il des petits problèmes dans nos maisons, nos familles? Et tant ta main, nous comptons sur toi. Merci pour la paix, la joie que tu vas donner, et merci pour la façon dont tu vas changer nos façons de voir les choses. Merci notre Dieu. Nous bénissons tout un chacun au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Christine, pour la prière. Bonne soirée à tout le monde et à demain.
Amen.